chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série concernant le complot meurtrier contre Jésus. Nous arrivons à l'étude numéro 5 et nous avons le baiser du traître. Ce sera notre titre, le baiser du traître. Jésus a dit dans Saint Luc chapitre 22, verset 48, il a dit à Judas, « C'est donc par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » D'un point de vue humain, les événements que réserve encore cette nuit tragique semblent n'apporter que disgrâce et défaite au Fils de Dieu. On pourrait croire que le Père n'a pas tenu compte de la prière que Jésus lui a faite dans le jardin et que dès lors tous les événements échapperont soudainement à la volonté de Jésus. En tout cas, c'est indubitablement ce que pensent les disciples. Ils ne se sont jamais trouvés en pareille situation avant. Bien que Jésus ait dû souvent redresser des pharisiens et des sadducéens hostiles, il les a toujours confondus et réduits au silence jusqu'ici. À maintes occasions déjà, ses ennemis ont cherché à se saisir de lui par la force ou l'ont menacé de sévices corporels. Mais il leur a toujours échappé auparavant, miraculeusement parfois. Ils ont donc l'habitude de le voir dans le rôle du vainqueur, jamais dans celui de la victime. Voilà que tout d'un coup, tout se met à mal aller, ou ainsi semble-t-il. Une foule armée entre dans le jardin pour l'appréhender. Contre toute attente, Judas le trahit alors de la manière la plus ignoble qui soit, on peut bien le dire, par un baiser hypocrite. Lorsque l'apôtre Pierre tente d'intervenir en ayant recours à la force, Jésus l'en empêche d'un reproche cinglant. Oui, finalement, les disciples, en proie à la peur, abandonneront leur maître et ils s'enfuiront. Or, chaque événement semble apporter davantage la disgrâce et la défaite à Jésus. En fait, c'est certainement l'impression que en ont les observateurs de la scène. Et pourtant, ce qui se dégage en premier lieu de chacune de ces récits bibliques de cet épisode, c'est la majesté paisible de Jésus, dont la conduite absolument calme, souveraine et transparente demeurera immuable tout au long de la tragédie. Quelle scène remarquable que Saint Matthieu nous fait ainsi revivre au chapitre 26 de Saint Matthieu, chapitre 45 à 56, où il est dit « Puis Jésus alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous, vous reposez, car voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous donc, car voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. celui qui le livre, qui le livrait, on a bien compris qui c'est, leur avait donné ce signe. C'est celui à qui je donnerai un baiser. C'est vraiment celui-là que vous devez saisir. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» et il lui donna un baiser. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être vraiment ainsi? » Et à ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. Or, j'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé, afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et ils prirent la fuite. Saint Matthieu, chapitre 26, versets 45 à 56. Je prends parfois les citations dans mes versions allemandes puisque je suis de langue allemande. Mais rassurez-vous, c'est à peu près pareil dans la Bible française. Pas de problème. Chers amis, à plusieurs reprises, Jésus a pressé les disciples de veiller et de prier avec lui. Par 3 fois, il a prié. Et au terme de chaque prière, il a dû les réveiller et les exhorter à prier aussi. Après tout, c'est un combat spirituel intense contre les forces des ténèbres que Jésus-Christ livrait en prière dans le jardin. Plutôt dans la chambre haute, il avait dit aux disciples, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. » Saint Jean chapitre 14, verset 30. On se rappellera que Satan avait tenté Jésus au tout début de son ministère, mais celui-ci avait déjoué chacun de ses stratagèmes. Oui, voyez-vous, et Satan ne lui a jamais donné le dessus de toute sa vie, jamais. Notez Saint Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Or, voyez-vous, l'agonie dans le jardin représente une dernière attaque désespérée du malin dont Jésus-Christ est sorti victorieux de nouveau. Il n'y avait absolument rien en lui dont Satan pouvait tirer avantage. Mais Satan est en train de monter un autre type d'attaque. Judas s'amène avec une grande foule armée en service commandé par les principaux sacrificateurs et les anciens du temple. Notons que Matthieu désigne encore Judas comme étant l'un des 12, Saint Matthieu chapitre 26, verset 47. C'est d'ailleurs souvent ainsi qu'il est désigné dans le Nouveau Testament. En fait, chacun des quatre évangiles emploie cette appellation pour décrire Judas. Notez s'il vous plaît Saint Marc chapitre 14 verset 10 à 43. Plutôt Saint Marc, excusez-moi, chapitre 14 verset 10 et 43. Excusez-moi. Ensuite notez Saint Luc chapitre 22 verset 47 et Saint Jean chapitre 6 verset 71. Donc 71. Alors, qu'elle sert une seule fois à décrire Thomas, un autre des disciples, selon Saint Jean chapitre 20, verset 24. Les auteurs donc de l'évangile mettent délibérément l'accent sur le fait que Judas compte au nombre des 12 pour bien nous faire comprendre quoi ? Pour bien nous faire comprendre le choc de la déception que tous ressentent et comment, en découvrant un traître en lui. C'est affreux. Pour contraste, les récits apocryphes sur Judas le décriront souvent comme ouvertement diabolique. Certains auteurs de l'époque inventeront des fables sur son compte pour le faire paraître aussi visiblement pervers et grotesquement méchant que possible. Et on les comprend. Mais la vérité, c'est que Judas semble tout de même, apparemment, être un disciple typique. De toute évidence, il n'a jamais donné aux autres une quelconque raison de se méfier de lui, puisqu'ils sont tous pris de court. Et comment ? En le voyant venir avec la foule désireuse d'arrêter Jésus. Or, on peut clairement discerner le choc des disciples dans l'exclamation que emploie Saint Matthieu pour décrire la scène, quand il dit « Voici Judas, l'un des 12 qui arrive, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. » Saint Matthieu, chapitre 26, verset 47. Le masque de fidélité à Jésus, derrière lequel s'est caché Judas, rend donc sa traîtrise particulièrement odieuse. Le fait que son ami intime, qui a toujours prétendu lui être loyal et l'aimer, le trahit insidieusement est bien pire, beaucoup pire que si Christ se voyait livré par un ennemi vraiment déclaré. Le geste de Judas s'avère donc d'autant plus honteux qu'il se fait accompagner d'une foule nombreuse qui sont armées d'épées et de bâtons, ce qui signifie qu'elle est prête à user de violence. Les antagonistes sont donc disposés à infliger, si nécessaire, des sévices corporels à Jésus-Christ et à ses disciples. Il ne s'agit donc pas d'un rassemblement de citoyens improvisés, mais bien d'une horde de brutes que les principaux sacrificateurs et les anciens ont soigneusement sélectionné et organisé. Saint Luc précise qu'il y a parmi la foule des chefs des gardes du temple. Saint Luc chapitre 22 verset 52. Or, ces agents de sécurité, qui agissent à titre de policiers dans les parvis du temple, ont des pouvoirs limités, même sanctionnés par Rome, quand il s'agit d'arrêter des gens pour violation de la loi juive. Saint Jean, chapitre 7, verset 32. Il est arrivé au moins une fois déjà que les principaux sacrificateurs ordonnent aux chefs des gardes du temple d'appréhender Jésus, mais qu'en l'entendant prêcher avec une telle autorité, ceux-ci ont été si étonnés qu'ils se sont rentrés, absolument bredouilles, selon Saint Jean chapitre 7, versets 46 et 45 et 46. Je répète, Saint Jean chapitre 7, versets 45 et 46. Je dois donc faire attention de ne pas me tromper de citation biblique, puisque je vous demande de contrôler dans vos Bibles. Saint Jean indique qu'il y a aussi parmi la foule une cohorte de soldats romains. Jean, chapitre 18, verset 3. Étant donné que c'est le Sanhédrin qui a orchestré l'arrestation de Jésus, c'est sûrement lui qui a demandé à ce que des soldats y participent. De toute évidence, ils ont prévu de l'accuser d'un crime capital, et comme seul Rome a alors l'autorité d'imposer la peine de mort, ils doivent impliquer un contingent de soldats dans l'arrestation. Rappelons-nous qu'à l'époque, des soldats romains sont en permanence en garnison à la forteresse Antonia qui jouxte le mont du Temple. Et c'est d'ailleurs indubitablement de là que les soldats impliqués ont été envoyés. Or, pour obtenir le concours de l'armée, les principaux sacrificateurs ont probablement dit aux autorités romaines que Jésus était un insurgé qui s'opposait à Rome, donc absolument dangereux. Quelle horreur! Aucun des évangiles ne dénombre la foule, mais dans le grec, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc indiquent tous qu'il s'agit d'une grande multitude. Ce sont donc pas deux ou trois, mais une grande multitude. Et selon la taille de la cohorte romaine, qui se compose typiquement de 600 soldats, pas mal, la foule peut facilement jouer dans les centaines. Par ailleurs, le fait que les principaux sacrificateurs envoient tant de gens pour arrêter Jésus démontre à quel point ils redoutent son pouvoir. Il est vrai que plusieurs fois déjà, ils ont tenté de l'appréhender ou de le réduire au silence, seulement pour voir leur manigance être déjouée. Ici, Jésus fait lui-même remarquer toute l'absurdité et la lâcheté de leur tactique qui consiste à envoyer une foule armée pour se saisir de lui au milieu de la nuit. Il leur dit du reste, dans Saint Matthieu chapitre 26, verset 55, « Vous êtes venus tous, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. Or j'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. » Rien ne saurait donc justifier une telle multitude. Toutes leurs précautions étaient d'ailleurs inutiles. Jésus n'entendait pas leur résister, pas du tout. Bien sûr, s'il ne souhaitait pas se faire arrêter, croyez-moi, aucune force terrestre ne pourrait l'y contraindre. Si son heure n'était pas maintenant venue, selon le plan parfait de Dieu le Père, il pourrait facilement échapper même à une très grande foule, comme Jésus le fait remarquer dans les, je crois, de, il, non, il l'a fait remarquer à Pierre, son disciple, à Pierre, au verset 53 de Saint Matthieu, chapitre 26. Il n'y a que quelques heures que Judas a maintenant quitté la chambre haute. Et il faisait déjà nuit à ce moment-là. Et maintenant qu'il s'amène, Judas, avec une horde d'hommes armés, il ne peut être beaucoup plus tard que minuit. Manifestement, il s'est rendu directement de la chambre haute chez les principaux sacrificateurs. Depuis qu'il lui avait versé l'argent du sang, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Saint Luc chapitre 22 verset 6. Mais afin de parer à toute éventualité, les conspirateurs ont résolu de se faire accompagner d'une multitude des leurs qu'il leur a évidemment fallu du temps à réunir. Mais la rapidité avec laquelle ils sont parvenus à rassembler tant de chefs des gardiens du temple, de soldats armés et d'autres individus, cela démontre leur grande détermination. Qui sait ce qu'ils ont bien pu raconter aux autorités romaines pour les convaincre d'envoyer sur le champ autant de soldats? Il est donc clair qu'ils ont faussement accusé Jésus de menacer sérieusement les intérêts de Rome. Judas, il sait pertinemment où se situe Gethsémané pour y avoir accompagné Jésus à plusieurs reprises au cours des derniers jours. Saint Jean chapitre 18 verset 2. Il se peut que les disciples aient projeté et convenu à l'avance de se rendre ce soir-là à Gethsémané, ou encore que Jésus était si fidèle à son habitude de fréquenter ce jardin que Judas savait parfaitement où le maître déciderait d'aller après le repas pascal. Quoi qu'il en soit, pour y amener toute une foule, Judas devait être pratiquement certain de pouvoir y trouver Jésus. En ce qui concerne les conspirateurs, il s'agit du lieu idéal pour procéder à l'arrestation de Jésus à l'abri des regards. À cette heure-là, Gethsémané est plongé dans une noirceur d'encre. Bien que la Pâque coïncide infailliblement avec la pleine lune et que cette soirée-là est donc moins sombre qu'à l'ordinaire, reste que dans une oliveraie, eh bien oui, les rayons de lune ne permettent de faire que de faibles nuances dans le, on peut dire, dans la pénombre. Et donc, c'est bien, on peut dire pourquoi Judas a préalablement convaincu d'un signal par lequel il allait évidemment identifier Jésus au profit de ses compagnons de trahison. Judas craint peut-être, ah oui, pourquoi pas, qu'un des disciples se rende aux autorités à la place de Jésus, se faisant peut-être passer pour lui afin que sa vie puisse être épargnée. Après tout, à peine quelques heures se sont écoulées depuis que Judas se trouvait dans la chambre haute en train d'écouter les autres disciples se déclarer prêts écoutez bien, à aller en prison et même à mourir pour leur merveilleux Jésus, pour leur maître. Notez Saint Jean, chapitre 13, verset 37, et Saint Luc, chapitre 22, verset 33. Ainsi, pour être sûr et certain de pouvoir distinguer Jésus des autres, les conspirateurs ont convenu à l'avance d'un signe. Et alors Judas leur a ainsi proposé, « Voyez-vous, celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui que vous devez saisir. » Saint Matthieu, chapitre 26, verset 48. Notons que dans leur culture, le baiser est un signe de respect et d'hommage, ainsi que d'affection. Les esclaves embrassent alors les pieds de leur maître en signe suprême de respect. Et il arrive également que des disciples embrassent le pan de la tunique de leur maître en gage de révérence et d'un dévouement très profond. Or, à l'époque, on baisse couramment la main de quelqu'un pour lui témoigner du respect et lui rendre hommage. Mais un baiser sur le visage, surtout s'il est accompagné d'une accolade, ça c'est un signe d'amitié et d'affection. On réserve ce geste à ses amis les plus intimes, ce qui fait que, d'ordinaire, un disciple n'embrasserait pas ainsi son maître, à moins que ce dernier ne l'embrasse le premier. Pour décrire le baiser de Judas, Matthieu emploie le terme « kataphileo », qui signifie « embrasser avec sincérité, intensité et même à répétition ». Il s'agit donc du même mot qui sert à décrire l'adoration affectueuse que a témoigné à Jésus dans la maison du pharisien. Rappelez-vous la femme qui a baigné ses pieds d'une huile parfumée de haut prix pour ensuite les essuyer de ses cheveux et de les embrasser. Saint Luc, chapitre 7, verset 38. Or, comme s'il ne suffisait pas à Judas de livrer Jésus, il agit en feignant une affection toute sincère, ajoutant ainsi à la noirceur de sa trahison. Se trouvant encore ici, sous l'emprise de Satan, Judas n'éprouve manifestement absolument aucune honte. Il aurait pu choisir n'importe quel signe pour permettre aux autres conspirateurs, d'identifier Jésus-Christ. Mais il en a sciemment choisi un qui aggrave, on peut bien dire, sa propre culpabilité d'une hypocrisie la plus diabolique qui soit. Il semble même prolonger délibérément son embrassade. Pourquoi ? Mais pour retenir Jésus le plus longtemps possible et ainsi de pouvoir s'assurer que les soldats auront le temps de l'appréhender. C'est quand même perfide, diabolique. Cet étalage d'affection feinte suscite en Jésus beaucoup de tristesse, mais aucune malice ni d'hostilité. Il lui dit, dans Saint Matthieu chapitre 26, verset 50, il lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. On y discernera une note de retenue et peut-être même de distance. » Jésus n'emploie pas ici le mot normal pour ami, oh non, qui est philos, mais il emploie celui dont il s'est servi dans la chambre haute pour dire aux disciples, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout, absolument tout, ce que j'ai appris de mon Père. » Saint Jean chapitre 15, versets 14 et 15. En s'adressant à Judas, il emploie ici le terme « hetairos », qui signifie tout simplement « camarade » ou « compagnon ». Quand on songe que ici, Jésus appelle simplement « camarade » ce fameux Judas qui se fait délibérément l'outil de Satan, habité et contrôlé par nul autre que par le prince des ténèbres, en livrant Jésus à ceux-là même qui vont le crucifier. Saint Luc rapporte que Jésus déclare ceci, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Saint Luc chapitre 22, verset 48. Il souhaite ainsi faire assumer à Judas et faire reconnaître aux disciples tout l'odieux de la trahison dont il est victime. Or même, si à ce stade-là, le cœur de Judas s'est manifestement endurci contre Jésus, eh bien Jésus continue de le traiter visiblement avec tendresse. Aucune injure ne franchit ses lèvres. Il ne parle pas sévèrement à Judas et ne le qualifie d'aucun nom qui lui conviendrait pourtant parfaitement, tel que scélérat, infidèle, traître ou insensé. Mais au lieu de cela, il le traite de camarade, l'appelle par son nom et lui pose gentiment des questions qui suffiraient à tourmenter, croyez-moi, la conscience de quiconque n'étant pas entièrement endurci. Certes, par contraste, la tendresse de Jésus accentue encore davantage la perfidie de ce terrible Judas. Mais Judas se montre absolument intraitable. Il agit comme si rien n'était. Il livre effrontément Jésus à ses bourreaux en continuant de feindre l'affection alors qu'il nourrit dans son cœur la haine la plus diabolique qui soit. Par la suite, Judas regrettera profondément ses agissements. Saint Matthieu chapitre 27, versets 4 et 5. Mais même là, ses regrets seront dénués de toute véritable repentance. S'est-on vendu à Satan, on peut bien le dire, pour 30 pièces d'argent, il se sera déjà voué lui-même à une éternelle séparation d'avec le Saint, avec le Saint qu'il aura si impitoyablement trahi. En fait, voyez-vous, il aurait mieux valu pour lui de ne jamais naître, ou de ne jamais avoir le jour, selon Saint Matthieu chapitre 26, verset 24. À moins, deux des disciples sont donc armés. Ayant entendu Jésus parler à plusieurs reprises de trahison et prédire son arrestation et sa crucifixion, eh bien les disciples n'ont pas voulu se rendre au jardin sans aucune arme. À ce sujet, voici les propos échangés plus tôt ce soir-là dans la chambre haute lorsque Jésus les a informés de ce que l'un d'entre eux allait le livrer. Notez Saint-Luc chapitre 22, verset 35, jusqu'au verset 38, où il est dit que Jésus leur dit: quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent: de rien. Et il leur dit: maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement s'il le faut et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi: il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Et ils dirent: mais Seigneur, voici, nous avons deux épées. Et il leur dit: cela suffit. Saint-Luc chapitre 22, verset 35 à 38. Jésus les a donc simplement avertis de la violence qui allait éclater sous peu, bien qu'ils aient pu toujours s'abriter sous l'aile providentielle de Jésus. Ils étaient sur le point d'essuyer un acte de violence terrible commis contre eux. Ils devaient donc s'y préparer pour éviter que leur foi ne chancelle sous le coup. Jésus parlait bien entendu d'une préparation spirituelle et non pas physique. Il les prévenait d'un combat spirituel qu'ils allaient bientôt devoir livrer et ne leur demandait donc certainement pas de prendre avec eux des flingues ou des kalachnikovs. Je plaisante. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Mais les disciples ont présumé à tort qu'ils voulaient littéralement qu'ils aillent se procurer des épées, faisant l'inventaire en privé de celles qu'ils possédaient déjà. Ils en ont trouvé deux. Notons que la réplique ambiguë de Jésus, que cela suffit, signifie ça suffit de les folies. Ne soyons pas insensés. Ils pensaient peut-être qu'ils trouvaient que deux épées suffisaient amplement. Quoi qu'il en soit, sa réplique a touché juste et il les a ainsi dissuadés de chercher à s'armer davantage. Bien entendu, deux armes de ce type s'avéreraient, on peut bien imaginer, quasiment, absolument inutile, ça fait rire, contre une foule qui est composée d'autant de soldats romains. Mais les disciples que les attentes messianiques poussent encore manifestement à espérer que Jésus renversera Rome et régnera sur Jérusalem, pourquoi pas, pensent peut-être qu'il emploiera des moyens surnaturels, va savoir, pour permettre à sa petite bande de disciples de remporter une victoire militaire miraculeuse ce soir-là. Or maintenant, qu'ils, les disciples, réalisent que Jésus est sur le point d'être pris de force, ils demandent: Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Saint-Luc chapitre 22, verset 49. Quelque chose que seul Saint Jean rapporte les enhardis manifestement leur donne du courage. Voyez-vous, lorsque les assaillants annoncent qu'ils cherchent Jésus de Nazareth, Jésus leur dit: mais c'est moi. Et lorsque Jésus leur dit: c'est moi, ils reculent. Et il tombe par terre. Ça paraît incroyable, mais vrai. Notez Saint Jean, chapitre 18, versets 5 et 6. Or, il se peut qu'une telle démonstration de pouvoir surnaturel ait amené les disciples à croire que peut-être Jésus envisage de détruire ses antagonistes de manière surnaturelle. Et voilà pourquoi ils lui demandent s'ils doivent avoir recours aux armes. Sauf l'apôtre Pierre. Rien ne lui vient à l'esprit ni aux lèvres. Simon Pierre, qui avait une épée, eh bien, l'apôtre Pierre la tira et frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus ou Malchus, en français probablement. Malchus, c'est plutôt dans ma langue. Verset 10. Or seul Saint Jean identifie l'apôtre Pierre comme étant le porteur des épées. Cela s'explique peut-être par le fait que les évangiles synoptiques ont été rédigés beaucoup plus tôt, c'est-à-dire avant que Rome ne mette Jérusalem à sac et détruise le temple. Il est donc possible que les auteurs synoptiques n'aient pas voulu révéler l'identité de l'apôtre Pierre pour lui éviter des représailles de la part des chefs religieux. Selon toute probabilité, Malchus ou Malchus compte parmi les principaux serviteurs du souverain sacrificateur puisqu'il est apparemment en tête du peloton et donc il est une cible facile pour Pierre. L'apôtre, et on doit quand même dire la vérité, l'apôtre cherche indubitablement, carrément, à le décapiter ou à lui fendre littéralement le crâne. Mais Malchus esquive et l'épée de Pierre lui passe donc le long de la tête et lui tranche l'oreille. Bien qu'un grand nombre d'âmes mal avisées s'y soient essayées, nul n'a jamais fait avancer la cause de Jésus par la force terrestre, jamais. En mettant en œuvre de telles tactiques, nous ne pouvons que nuire à notre témoignage chrétien plutôt que de le favoriser. Il est donc inutile de chercher à faire progresser le royaume de Dieu au moyen d'armes terrestres ou de stratégies mondaines. Car après tout, comme Jésus le dira à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Saint Jean chapitre 18, verset 36. Ici, Jésus reprend sévèrement l'apôtre Pierre. Il lui dit, remets ton épée dans le fourreau. Saint Jean chapitre 18, verset 11. Saint Matthieu précise que Jésus poursuit en disant, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Saint Matthieu chapitre 26, verset 52. Cela paraphrase ainsi le livre de la Genèse, où il est dit au chapitre 9, verset 6, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Oui, c'est sérieux. Et ce faisant, Jésus signifie à Pierre qu'il ne considérait pas son geste comme de la légitime défense, mais comme un acte illégal, c'est-à-dire une tentative de meurtre digne de la peine de mort. Car même si l'arrestation de Jésus constitue un acte injuste et lâche, il émane tout de même, on l'a compris, il émane des autorités dûment vraiment établies sur Jérusalem, auxquelles nul ne doit donc résister par des moyens illégaux. Romains chapitre 13, verset 2. Le fait pour un individu de poser des actes de violence et de désobéissance civile contre un gouvernement qui est dûment constitué, cela est toujours répréhensible, même si le gouvernement en question est totalement injuste. Et voilà d'ailleurs un point sur lequel il convient d'insister en cette époque où nombre de chrétiens s'octroient le droit de violer la loi pour s'opposer à des crimes sanctionnés par le gouvernement. Évidemment, tout ça c'est plus vite dit que fait. Voyez-vous, notre Seigneur n'interdit pas ici l'autodéfense ni la défense de nos proches contre un type quelconque d'agresseur. Si la femme d'un mari qui est le père d'un enfant se fait agresser violemment, on comprendra que de nos jours, ce père a en quelque sorte le devoir de défendre sa femme. Donc Jésus ne prône pas une forme quelconque de pacifisme qui serait bonasse et un peu idyllique. Il indique tout simplement qu'il est important de se soumettre aux autorités divinement établies, même si celles-ci s'avèrent injustes ou abusives. Et voilà pourquoi il réprimande l'apôtre Pierre ainsi, « Laisse tout cela, arrête !» Saint Luc chapitre 22, verset 51. De toute manière, Jésus n'a nullement besoin d'avoir recours au pouvoir charnel pour se défendre. Cette réalité, il l'a déjà clairement démontré, puisque il lui suffit de prononcer quelques paroles pour faire reculer et tomber par terre ses assaillants. Alors il poursuit ainsi sa réprimande à l'endroit de l'apôtre Pierre. « Pierre, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon père ? Mon père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» C'est Matthieu chapitre 26, verset 53. Notons qu'une légion se compose en ce temps-là de 600 soldats. Or, 12 légions d'anges représentent donc un total de 72 000 anges, 72 000 anges. Rappelons-nous également que dans l'Ancien Testament, quand l'armée de Sennacherib menaçait de prendre Jérusalem, un seul ange a tué à lui tout seul 185 soldats assyriens en une nuit. Notez 2 Rois, chapitre 19, verset 35. C'est donc dire que la puissance d'une armée de 72 000 anges serait plutôt très très imposante. Ça pourrait, à eux tout seuls, tuer toute l'humanité de la terre qui sont des milliards. Or, si Christ avait souhaité échapper à la foule de ses assaillants armés, il n'aurait certainement pas eu besoin de l'épée de l'apôtre Pierre. Comme il le rapporte et le rappelle à l'apôtre qui est vraiment téméraire, Jésus poursuit un objectif beaucoup plus noble. Comment donc s'accompliraient les saintes écritures d'après lesquelles il doit en être vraiment ainsi? Saint Matthieu 26, verset 54. Si les anges venaient maintenant à sa rescousse, il ne pourrait pas accomplir son œuvre expiatoire, jamais. Alors, n'est-il pas dit dans Saint Jean chapitre 18, verset 11, « Ne boirai-je pas la coupe que le Père, mon Père céleste, m'a donnée à boire ?» Saint Jean chapitre 18, verset 11. Jésus leur a déjà montré que les saintes écritures allaient s'accomplir par la trahison de Judas. Notez le psaume 41, verset 10. Ainsi que par le coup qui est porté au berger qui allait disperser les brebis, déjà mentionné dans Zacharie, chapitre 13, verset 7. Notons qu'il existe un nombre d'autres passages scripturaires qui traitent du fait que le Messie souffrira pour les péchés qui ici ne sont pas encore tous accomplis, mais que Jésus entend bien accomplir intégralement. Encore une fois, en agissant impétueusement et charnellement, l'apôtre Pierre nuit au plan de Dieu, car la colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. Jacques chapitre 1 verset 20. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont très puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Apparemment, Malchus ou Malchus, il a encore l'oreille qui lui pend le long de la tête. N'oublions pas, rappelez-vous, dans une remarquable démonstration de sa toute-puissance, ayant simplement touché l'oreille de cet homme, Jésus le guérit. Saint Luc chapitre 22 verset 51. Il s'agit d'ailleurs du seul incident consigné dans l'Écriture où Jésus guérit une blessure toute récente. Mais cette intervention est d'autant plus remarquable que Malchus est un incroyant et de surcroît totalement hostile à Jésus. Mais ce qui est peut-être encore beaucoup plus frappant, c'est que la foule, elle semble ne faire virtuellement aucun cas de ce miracle, tellement qu'ils sont omnibulés par Satan pour tuer le Messie. Tous vont donc à leur odieuse occupation, comme si rien digne de mention ne s'était produit, selon le verset 54. Donc, la guérison de l'oreille de Malchus n'a guère plus d'effet sur eux que n'en a eu la puissance qui les a jetés, rappelez-vous, qui les a jetés par terre quelques instants plus tôt. Ils sont absolument semblables, écoutez bien la suite, semblable aux hommes de Sodome et Gomorre, que la puissance de Dieu a frappé de cécité, rappelez-vous, mais qui se sont entêtés malgré tout à poursuivre leurs menaces insidieuses. Genèse, chapitre 19, versets 10 et 11. Je vous conseille d'écouter toute la série super intéressante est 100% biblique concernant le livre de la Genèse que vous pouvez écouter sur 3xw.bibleexplique.ch sur Internet. Donc, ils ne permettront pas même à une démonstration miraculeuse, une démonstration de la puissance de Dieu, de les détourner de leurs objectifs perfides, de vouloir à tout prix venir à bout de Jésus. Chers amis, je aimerais remercier Dieu mon Père et Jésus-Christ mon Sauveur et Seigneur pour avoir permis que le Saint-Esprit s'empare de mon esprit, de ma bouche, à mon très grand âge, pour que ma voix puisse être audible sur ce CD. Car ça, c'est un miracle. Vous le comprendrez bien, à passer 90 ans. Chers amis, c'est ici que Jésus déclare à la foule d'assaillants: vous êtes donc venus comme après un brigand. Vous êtes venus avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. Or, j'étais tous les jours assis parmi vous. J'enseignais dans le temple et vous ne m'avez pas saisi. C'est Matthieu chapitre 26, verset 55. Le fait même qu'ils s'en prennent lâchement à Jésus en pleine nuit, cela prouve qu'ils savent n'avoir aucun droit de l'arrêter. Ils ne participent pas là à une insurrection clandestine. Il a enseigné publiquement au grand jour, habituellement dans les parvis du temple, au vu et au su de tous. Si on avait été légitimement en droit de l'arrêter, on aurait pu le faire presque n'importe quel jour au cours de la dernière semaine. Mais le Sanhédrin sait bien entendu qu'une arrestation publique risquerait d'ameuter la foule. Et voilà pourquoi il a comploté pour se saisir de Jésus secrètement. Toutefois, par cette remarque, Jésus dévoile le subterfuge aux soldats romains, qui eux ignorent probablement tout des véritables motifs des chefs religieux. Jésus ajoute ensuite: « Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Verset 56. Jésus en revient donc ainsi au thème propre au récit de la crucifixion consigné dans les quatre évangiles. En fait, en arrêtant Jésus, les conspirateurs accomplissent à la perfection ses desseins souverains, et cela en dépit même de leur hostilité à son égard. Leurs tentatives pour le détruire ne servent que à ses propres fins et à exécuter un plan établi avant même le début des temps. Donc peu importe avec quel acharnement les forces des ténèbres cherchent à le détruire, sa parole et sa volonté s'accomplira inévitablement. Et à maintes reprises, à plusieurs reprises, les disciples ont entendu Jésus affirmer avoir une pleine et entière confiance dans le plan souverain de Dieu. Mais dans de telles circonstances, Et en ce moment précis, eh bien cela ne semble pas beaucoup les réconforter. Jésus-Christ vient de se faire livrer aux mains de ses ennemis et ils ne peuvent rien faire. Ils ne se sont jamais trouvés dans une situation qui leur semble aussi désespérée, tout au moins jamais en présence de leur maître Jésus. Les dernières heures ont été éprouvantes et le désespoir total les gagne maintenant. Ils ont les yeux bien fixés sur les circonstances et non pas sur la doctrine de la souveraineté de Dieu. Par conséquent, ils ne tirent aucun réconfort des paroles pourtant rassurantes de leur maître, de leur rabbi. Et voilà que c'est la panique. Alors tous les disciples l'abandonnent et ils prennent la fuite. Verset 56. Rappelons-nous que même leur désertion, elle sert à accomplir l'Écriture sainte. Ils agissent précisément comme Jésus l'avait prédit. S'il y réfléchissait, eh bien il réaliserait qu'aucune tragédie ne leur est survenue sans qu'il ne les a pas prévenus. Les disciples se dispersent donc littéralement plutôt que de fuir en groupe. L'apôtre Pierre et Jean suivent secrètement la foule jusqu'à la maison du souverain sacrificateur, selon saint Jean chapitre 18, verset 15. On ignore où les autres disciples sont allés, mais il semble qu'ils sont allés pour se cacher. Il faut dire à leur crédit qu'ils se seraient tous fait arrêter, ou pire encore, s'ils étaient restés par exemple dans le jardin. Fait évident, à en juger par la demande que Jésus adresse aux soldats qui sont chargés de l'arrêter et que saint Jean rapporte ainsi dans le livre de saint Jean chapitre 18, verset 8, « Si donc c'est moi que vous cherchez, alors laissez aller ceux-ci. » Saint Jean, chapitre 18, verset 8. Donc, selon Jean, Jésus dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il a dite quand il a dit « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné », verset 9. Ce sont probablement d'ailleurs ces paroles qui décideront les disciples à fuir sans demander le reste. Saint Marc donne une précision qui ne se trouve dans aucun autre évangile. Il dit dans Saint Marc chapitre 14 verset 50 à 52, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous sont partis en courant. Or un jeune homme le suivait. Il avait sur son corps que un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et il se sauva tout nu. Saint Marc, chapitre 14, versets 50 à 52. Et l'identité de ce jeune homme n'est révélée absolument nulle part, mais il s'agirait probablement de Saint Marc lui-même. Mais du reste, qu'importe qui est ce jeune homme, il était apparemment au lit ou sur le point de se coucher lorsque tout à coup les bruits de la foule l'ont réveillé. Sans prendre le temps de s'habiller, Il s'est donc enveloppé d'un drap pour aller voir d'où venait tout ce vacarme. Présumant qu'il s'agit d'un disciple de Jésus, les soldats tentent ici de l'appréhender, de l'arrêter. Mais il parvient à leur échapper, mais en devant, bien entendu, abandonner son semblant de vêtement pour fuir tout nu dans la nuit. Or, cela prouve certainement que les disciples eux-mêmes courent absolument de réels dangers ce soir-là. Nous allons terminer notre étude pour aujourd'hui. Nous poursuivrons demain matin, Dieu voulant. Donc, les disciples, on l'a compris, ont abandonné leur maître, qui ne se trouve pas du tout seul pour autant. Oh non, Jésus ne se trouve pas tout seul. À ce sujet-là, rappelons-nous ce que Jésus a déjà dit à ses disciples. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez tout seul. Mais je ne suis pas du tout tout seul, car mon Père Céleste est avec moi. Saint Jean, chapitre 16, verset 32. Chers amis, l'œuvre divine de la rédemption se poursuit ainsi conformément au plan souverain de Dieu qui s'accomplira dans les moindres détails, et cela en dépit de l'opposition de ses ennemis et même de l'abandon de ses amis. Chers amis, j'aimerais vous transmettre encore quelques pensées pour vous encourager, mais aussi pour votre enseignement personnel. Écoutez bien. Cherchez un temps propre à vous occuper de vous-même et pensez souvent aux bienfaits de Dieu. Laissez là ce qui ne sert qu'à nourrir la curiosité. Lisez plutôt ce qui touche le cœur que ce qui amuse simplement l'esprit. Retranchez les discours superflus, les courses inutiles. Fermez l'oreille aux vains bruits du monde et vous trouverez assez de loisirs pour les saintes méditations. Il est plus aisé de se taire que de ne point excéder dans ses paroles. Celui donc qui aspire à la vie intérieure et spirituelle, il doit se retirer de la foule avec Jésus-Christ. Nul ne se montre sans péril s'il n'aime à demeurer caché. Nul ne parle avec mesure s'il ne se tait volontiers. Nul n'est en sûreté dans les premières places s'il n'aime les dernières. Nul ne commande son danger s'il n'a pas appris à bien obéir. Nul ne se réjouit avec sécurité s'il ne possède en lui-même le témoignage d'une bonne conscience. Cependant, la confiance des saints a toujours été pleine de la crainte de Dieu, quel que fût l'éclat de leur vertu, quelque abondante que fussent leurs grâces, ils n'en étaient ni moins humbles ni moins vigilantes. L'assurance des méchants, elle naît au contraire de l'orgueil et de la présomption, et elle finit par l'aveuglement. Ne vous promettez point de sûreté en cette vie, quoique vous paraissiez être un vrai chrétien ou un pieux solitaire. Souvent, les meilleurs dans l'estime des hommes ont couru les plus grands dangers à cause simplement de leur trop de confiance. Il est donc utile à plusieurs de n'être pas entièrement délivrés des tentations et de souffrir des attaques fréquentes de peur que, tranquilles sur eux-mêmes, ils ne s'élèvent avec orgueil ou qu'ils ne se livrent trop aux consolations du dehors. Oh, si l'on ne recherchait jamais les joies qui passent, si jamais on ne s'occupait du monde, qu'on posséderait une conscience pure. Oh, qu'elle retrancherait toute solitude, on peut dire toute sollicitude vaine, ne pensant que, absolument que au salut et à Dieu, et plaçant ainsi en lui toute son espérance de quelle paix et de quel repos il pourrait ainsi jouir. Amen. Et chers amis, terminons par la prière, s'il vous plaît. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Père, que cette coupe passe loin de moi, s'il est possible. Toutefois, qu'il en soit non comme je le voudrais, mais comme toi tu le veux. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté seule soit faite. Oh, je te loue, mon Père céleste, Seigneur du ciel et de la terre, et ce que tu as caché, toutes ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, mon Père, cela est ainsi, parce que tu l'as trouvé bon. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Père, je te rends donc grâce de ce que tu m'as exaucé. Hosanna, béni soit le roi des rois. Amen. Amen. Et chers amis, souvenez-vous que Dieu vous aime. Il vous aime d'un très grand amour. Et de ce fait, il est de mon devoir de vous aimer également. Et maintenant, pour nous quitter, je vous enlace tous, vous qui écoutez ces études, je vous enlace tous et je vous dis oui, je vous aime intensément et je vous embrasse avec tout mon amour et je vous dis oui. Soyez bénis. Amen. Amen.